20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Préhistoriens réunis en conclave à l'occasion du plus grand congrès mondial, voici 40 ans que la France n'avait vécu un tel événement. Dans ce congrès parisien de l'USPP, conférences et débats se sont succédés, tandis que nos archéologues du monde entier ont eu l'occasion de découvrir nos merveilles touristiques et préhistoriques, le Périgord cavernicole ou la Bretagne mégalithique. Pour autant, où en est aujourd'hui la préhistoire française, celle-là même qui fut pionnière et forgea les bases de la discipline à l'échelle mondiale? Mon invité tentera ce soir de faire ce bilan, de percevoir nos avancées, trouvailles et découvertes, et cela depuis 40 ans. François Jinjan, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université de Paris 1, spécialiste des méthodes en théorie et en archéologie, vous êtes aussi le fouilleur de cabanes édifiées en os de mammouth. Nous en reparlerons prochainement. Vous êtes surtout le grand organisateur de ce congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques. François Jinjan, quelques scoops ont-ils été révélés durant ce congrès ?
Eh bien, d'abord, je voudrais vous dire que le dernier congrès de préhistoire à Paris était en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. C'était à l'époque le congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique qui a été créé en 1865 par Gabriel de Mortillet. Donc c'est plus de 150 ans de préhistoire que nous avons fêté à Paris à l'occasion de ce 18e congrès de l'USPP. Pour les scoops, je crois que je vais vous décevoir, parce que ce que nous avons revu, ce sont des résultats de fouilles programmées, de grands sites archéologiques, des stratigraphies de référence, des structures d'habitat, des sépultures, des courbes paléoclimatiques, des reconstitutions paléo-environnementales, des études détaillées sur la culture matérielle, des origines de matières premières, bref, des relevés de grottes ornées, etc., des modèles de ressources alimentaires dans le cycle annuel, des synthèses de peuplement, des études démographiques, des modèles systémiques. C'est ça les vrais scoops qui ont été communiqués au Congrès par nos collègues chercheurs du monde entier et qui seront publiés dans les actes et qui seront détaillés dans les monographies, synthétisés dans des livres comme ceux que nous venons de publier, qui sont la synthèse des 40 ans de la préhistoire de la France et de la protohistoire de la France, et que je suggère à nos auditeurs de lire.
Donc, c'est une énorme machine, ce sont quantité de sessions, c'est combien de conférences par exemple ?
Nous avions 130 sessions, nous avions une vingtaine de sessions simultanées en permanence.
Donc on ne peut pas assister à tout.
On picore. On repart totalement frustré. On était venu pour voir plein de choses et finalement on a délivré que sa communication et salué que quelques collègues.
40 ans, c'est plus de deux générations de préhistoriens et par essence de grandes découvertes. Prenons deux découvertes récentes justement. La première, tout au fond d'une grotte, celle de Bruniquel, et une extraordinaire trouvaille.
Une trouvaille spectaculaire, mais Bruniquel n'est pas un scoop. C'est une structure dans une grotte qui a été découverte en 1992. Par un célèbre collègue qui s'appelle, malheureusement décédé, François Rouzeau, qui était paléospéléologue. Sa spécialité était de découvrir des grottes et de désobstruer des conduits pour pénétrer dans ces grottes et découvrir des grottes ornées. Il avait découvert cette grotte à ours avec ses bauges, avec des ossements animaux mélangés qui ont été publiés dans une thèse en 1996, mais il y a à peu près de tout dans cette faune. Il y a du sanglier, il y a du lapin, il y a du renne, donc c'est assez mélangé. Et il y avait eu une datation, ce radiocarbone, sur un radius d'ours carbonisé qui n'avait plus de carbone 14, donc qui était déjà sans doute très ancien. Alors, une structure de spéléothème, oui. Une cabane, non. Un habitat profond, non. un niveau archéologique, non. On est dans une structure très particulière et il faut une étude plus approfondie et plus détaillée pour en savoir plus.
C'est-à-dire que des hommes préhistoriques ont construit une sorte de structure circulaire en stalactites.
Oui, en cassant de nombreuses stalactites. Mais on sait que dans les grottes, ils le font d'abord pour pénétrer dans des conduits qui sont obstrués. Ils le font pour marquer les passages. Donc cette opération est une opération classique dans les grottes ornées. Là, ce qui est inhabituel, c'est que c'est une véritable structure circulaire. Il y a des os brûlés, donc il y a eu certainement des foyers. Mais comme tout est lessivé par l'humidité de la grotte, il faudrait faire des fouilles approfondies pour retrouver les traces de ces os brûlés. Mais il faut effectivement essayer de comprendre quelle est la fonction de cette structure. Et pour l'instant, c'est encore, nous n'avons pas ces résultats. De toute façon, les structures d'habitat du paléolithique inférieur et moyen sont toujours très discutées entre spécialistes.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que bien sûr, cette structure a été datée et elle est extrêmement ancienne. On tournerait vers 176 000 ans.
Oui, mais c'est de l'uranium-thorium sur la calcite qui recouvre l'os brûlé. Et donc, nous reparlerons tout à l'heure, dans une de vos prochaines questions, de la datation par uranium-thorium.
Alors, pour vous qui travaillez en Ukraine sur des cabanes en os de mammouth, en Europe orientale, cela évoque quoi, cette structure en stalactite? L'imagination, l'innovation des hommes préhistoriques, par exemple?
Le défaut de notre profession, c'est que quand nous ne comprenons pas quelque chose, nous avons toujours tendance à imaginer des explications de nature spirituelle ou sacrée qui nous entraînent rapidement dans des mécanismes qui sont irrationnels. Donc, permettez-moi de prendre le joker sur la question que vous venez de poser.
Toujours est-il, c'est assez intéressant de voir que des stalactites peuvent être utilisées comme des mammouths peuvent être utilisés pour faire des maisons.
De ce point de vue-là, il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence des chasseurs-cueilleurs, qui sont en général plus intelligents que les préhistoriens qui les étudient.
La seconde découverte récente sont des tombes datées d'environ 25 000 ans, mises en évidence dans une très belle grotte qui a été trouvée récemment, il y a une vingtaine d'années. Une découverte tout à fait exceptionnelle, la grotte de Cussac.
Oui, mais Cussac, c'est exceptionnel. D'abord par les gravures et les représentations pariétales qui sont bien datées du Gravettien, mais aussi, non pas par ces sépultures, mais ces squelettes. Ce sont des squelettes qui reposaient calcités sur la surface du sol. Donc ce ne sont pas des sépultures. Mais néanmoins, elles sont gravettiennes aussi et elles sont contemporaines des auteurs, sinon des auteurs eux-mêmes, des gravures de la grotte.
C'est extrêmement rare.
Quand elles ont été découvertes, c'était la première fois qu'on découvrait quelque chose de cette nature.
Quelle a été l'évolution de la recherche préhistorique française au cours de ces 40 dernières années?
Eh bien, nous avons été surpris en finissant les deux volumes de voir à quel point nos connaissances avaient progressé et évolué depuis 40 ans. Et que l'état de nos connaissances il y a 40 ans et l'état actuel n'ont pratiquement rien à voir. Nous avons progressé sur tous les plans. Nous avons progressé d'abord sur les méthodes et les techniques de l'archéologie, les datations, les mesures physico-chimiques, les traitements statistiques, l'informatique, les systèmes d'information géographique, la prospection, l'analyse isotopique, les moyens mécaniques dans nos fouilles programmées, dans nos fouilles de préventives, des études technologiques, etc. Nous sommes véritablement aujourd'hui dans une discipline qui n'est ni une science exacte, ni une science naturelle, ni une science humaine. Elle est tout à la fois, puisque pour pouvoir être un bon archéologue, il faut maîtriser des enseignements venant de toutes ces spécialités scientifiques.
L'imagerie peut être aussi très importante en archéologie. Aujourd'hui, tout est imagerie.
3D est une révolution méthodologique en archéologie. C'est une révolution, et c'est une révolution qui est peu coûteuse, ce qui est très apprécié par nos budgets d'archéologues, puisqu'avec un appareil photo, un logiciel et un PC, vous pouvez faire une reconstitution 3D aujourd'hui, alors que, imaginez, au 19e siècle, au début du 20e siècle, ou même avec la lasergrammétrie, nous étions dans des domaines de complexité technologique et dans des domaines budgétaires qui étaient inaccessibles aux archéologues. Aujourd'hui, tout est possible avec la 3D.
Le cadre chronologique de la préhistoire, il a été mis en place par les grands anciens, je dirais Péroni, Breuil, tous ces grands noms des années 1900-1930. Aujourd'hui, les archéologues travaillent, ou les préhistoriens travaillent dans ce cadre, toujours, mais à l'intérieur de ce cadre ?
À l'intérieur de ce cadre, nous améliorons. Nous n'avons pas jeté à la poubelle les chronologies de nos grands anciens. Nous les affinons. Mais là où nos grands anciens avaient une précision de l'ordre de 5000, pour le paléolithique supérieur par exemple, de 5000 ans, nous sommes à 1000 ans. Pour le néolithique, là où ils étaient à quelques milliers d'années, nous sommes à quelques centaines d'années. Je discutais encore récemment avec Jean Guilaine au téléphone et je lui disais qu'un paléolithicien supérieur était capable d'identifier à 1000 ans près une collection d'objets en silex. Et lui, il me disait que pour le néolithique, une collection de fragments de céramique pouvait être déterminée à 300 ans près. Voilà, le progrès, il est là. Il n'est pas spectaculaire. Mais c'est le résultat de l'érudition de l'archéologie année après année depuis plus d'une centaine d'années.
La grande révolution de l'archéologie, François Djidjian, vient du terrain. Nous avons souvent parlé de l'archéologie préventive, mais désormais, on ne fouille plus un site, on fouille des hectares, voire des centaines d'hectares qui nous permettent d'avoir une autre vision de la préhistoire.
Évidemment, parce que les moyens mécaniques aujourd'hui nous permettent de faire ça. L'archéologie préventive apporte des moyens considérables pour la fouille. Il faut imaginer qu'une équipe d'archéologie préventive de quelques dizaines de personnes avec des moyens mécaniques importants pendant 6 mois ne peut pas être comparée avec une équipe de universitaires de 5 personnes fouillant pendant 3 semaines dans un abri sous roche. Donc vous voyez la différence de moyens et la différence de résultats à l'arrivée. L'archéologie préventive est aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de données archéologiques de terrain, le plus grand pourvoyeur de matériel archéologique. Ceci est évident pour la protohistoire, ceci est moins évident pour la préhistoire ancienne, mais pour la préhistoire ancienne, ce sont des habitats de plein air que nous n'avions pas parce que les fouilles programmées étaient des fouilles en grotte ou en abri sous roche. Donc il y a un complément d'une importance considérable pour les sites de plein air de préhistoire ancienne. Donc l'archéologie préventive, c'est une grande révolution de l'archéologie. Et puis, nous sommes passés de quelques centaines d'archéologues à 5000 archéologues avec l'archéologie préventive en France. Imaginez par exemple qu'un pays que je connais bien, qui est l'Ukraine, il y a toujours 200 archéologues et pas d'archéologie préventive pratiquement.
Les plus vieux Français dateraient de 470 à 240 000 ans. Ils sont toujours associés à Néandertal ?
Je vais vous préciser un peu. C'est le débat que nous avons eu ces 20 dernières années entre une chronologie longue et une chronologie courte. La chronologie courte, c'est 500 000 ans. La chronologie longue, c'est 1 million d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la chronologie longue qui l'a emporté. Nous sommes au million d'années. Alors, le million d'années, il est bien connu en Espagne, par exemple à Tapuerca, à Orsay.
C'est extraordinaire.
En Italie, à Pyrénées, en France, dans la grotte du Valonnet. Mais il est connu aussi en Angleterre, à Pittsburgh, 800 000, au moins. Donc, si vous avez un peuplement sur la côte de l'Angleterre, au moins 800 000 ans, ça veut dire que vous avez un peuplement du même âge dans la moitié nord de la France. Nous n'avons pas encore de grands sites de cette époque encore découverts, et je pense que c'est un objectif important de ces 20 prochaines années de découvrir ces sites. Par contre, nous avons les sites magnifiques autour de 400 000, 500 000, 600 000 ans, qui sont les magnifiques sites acheuléens du stade isotopique 13 ou du stade isotopique 11 que nous avons notamment dans la vallée de la Somme, et aussi dans le sud de la France, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Donc ce grand peuplement est associé non pas à un homme de Néandertal, c'est associé à un Homo heidelbergensis, comme ceux que nous avons dans la mâchoire de Moher ou celui que nous avons à Box Grove en Angleterre.
La France serait le pays ayant livré le plus grand nombre de vestiges de Néandertaliens dans l'Ancien Monde. 40 ans, citons bien sûr Biache-Saint-Va, La Quina, Rochelot, la Côte de l'Arago. La Côte de l'Arago, Totavel, est un site où l'on trouve énormément de fossiles.
Oui, c'est le site où il y a le plus grand nombre de numéros de fossiles. Mais ce ne sont pas que des fragments. Nous avons la fameuse sépulture de la chapelle aux saints, qui a été découverte et étudiée en 1908 par Marcelin Boule. Mais à la Ferrassie, vous avez 7 squelettes de Néandertal qui ont été découverts par Perroni et Capitan et qui ont été étudiés par Jean-Louis M. Mais vous avez aussi d'autres sépultures, par exemple en Crimée, en Palestine, à Skoul, à Kavzé, en Belgique, à Spi. Donc nous avons des sépultures. Mais en France, nous avons aussi Regourdou, qui est une sépulture, Moustier, etc. Alors, Saint-Césaire, c'est un Néandertal, mais dans un niveau Châtel-Perron du palétique supérieur. Et vous allez sans doute me poser une question sur ce point. Alors, ces inhumations sont des inhumations en fosse, mais il n'y a pas de rituel associé. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une inhumation de nature, je dirais, hygiénique, parce que ces habitats sont des habitats de longue durée. Pendant le stade isotopique 4, qui est un stade très froid, ces habitats sont occupés très longtemps. Et donc quand il y a un décès, eh bien, il faut l'inhumer. Mais ça ne veut pas dire que nous ayons un rituel comme au paléolithique supérieur qui est associé à ces sépultures. Enfin, nous avons des repères d'hyènes avec des crânes, comme le mont Circé et Rochelot que vous avez cité. Et puis on a des problèmes taphonomiques, hein, des sépultures qui sont détruites, comme dans les sites de plein air. Donc Biache-Saint-Vaast, c'est peut-être des sépultures qui ont été détruites. Et puis nous avons du cannibalisme, comme à Krapina ou comme en Croatie ou comme à Goyer en Belgique. Donc c'est compliqué.
Et puis on a quelquefois des choses qui se promènent. Je pense bien sûr au fameux bras de Parville-la-Rivière qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps et qui a été trouvé, il a dû flotter dans la Seine avant de s'échouer sur une berge donc de sable et d'être enseveli. Donc on trouve des bouts d'hommes un peu partout quand même.
Et celui-là est intéressant parce que il est daté du stade isotopique 5, qui est un interglaciaire.
120 000 ans à peu près?
Voilà. Et l'homme de Néandertal, comme vous savez, c'est un homme qui s'est adapté au grand froid des stades isotopiques 8 à 6. Et qui s'est amplifié morphologiquement dans le stade glaciaire 4. Et le stade isotopique 5 est un grand interglaciaire, qui est l'avant-dernier. Et là, il aurait pu régresser, mais il a continué à rester un homme de Néandertal dans un environnement interglaciaire. La seule différence, c'est qu'il est remonté plus au nord, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Hollande et jusqu'en Sibérie.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
François Jinjan, les vraies avancées viennent du laboratoire de recherche du Max Planck et des travaux génétiques de Svante Paabo. Ça, c'est une vraie révolution.
La paléogénétique est une nouvelle spécialité de la préhistoire. Il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent en paléogénétique, dont, effectivement, le plus connu est l'Institut Max Planck. Mais c'est une jeune spécialité et qui a un certain nombre de difficultés à résoudre. Des échantillons qui sont plus ou moins bien conservés pour l'ADN et la plupart du temps pollués, et pollués par l'ADN moderne des archéologues eux-mêmes. Donc c'est compliqué. Alors ces résultats en outre sont très spectaculaires et très médiatisés, mais ils sont contradictoires dans le temps. Si vous faites l'historique des publications de l'Institut Max Planck, vous verrez qu'ils ont plusieurs fois modifié les conclusions de leurs travaux. Il y a aussi un autre inconvénient que je vois avec la paléogénétique, c'est que nos collègues paléogénéticiens fonctionnent un peu en circuit fermé.
Mais est-ce que vous avez intégré ces données-là à vos problématiques?
Mais nous, on les intègre. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'ils viennent en discuter avec nous. Et moi, je leur propose ici, officiellement, d'organiser un colloque où paléogénéticiens et préhistoriens pourraient mettre sur la table toutes les données de façon à trouver des solutions à des conclusions qui sont aujourd'hui contradictoires entre ce que nous connaissons des stratigraphies, de la culture matérielle et des modèles paléogénétiques. Donc, je les invite officiellement à nous rejoindre. Nous avons organisé une session de paléogénétique au congrès de Paris, au 18e congrès, mais ça ne suffit pas. Il faut discuter.
Beaucoup de recherches ont été faites autour du comportement symbolique de Néandertal. Cela dépasse d'ailleurs, bien sûr, la France. Ainsi, des peintures néandertaliennes récemment proposées sont aujourd'hui très critiquées. On parle de peintures naturelles.
Alors, je vois à quoi vous faites allusion. Ce sont des études de datation à l'uranium-thorium sur un certain nombre sur des calcites recouvrant des peintures. Les peintures recouvrant elles-mêmes de la calcite. Donc il y a eu un certain nombre de datations faites sur des grottes ornées espagnoles, notamment la Pasiega, Maltraviso, Ardales, avec des dates proposées autour de 65 000. La conclusion, c'est que l'homme de Néandertal aurait fait de l'art pariétal, comme si l'homme de Néandertal n'était pas assez intelligent pour faire de l'art pariétal. Je voudrais corriger ceci. L'homme de Néandertal est extrêmement intelligent. Le fait qu'il ait une visière susorbitaire et un chignon occipital ne veut pas dire qu'il est plus bête que l'homo sapiens. Ça veut dire qu'il s'est adapté au climat froid européen pendant l'avant-dernière glaciation entre le stade isotopique 8 et 6 et ensuite après. L'homme de Néandertal est très intelligent. Il taille d'une façon extrêmement sophistiquée. Donc le problème de l'art néandertal n'est pas lié à la capacité cognitive de l'homme de Néandertal. Elle est liée au besoin de faire de l'art pariétal et à la fonction de l'art pariétal dans une société de chasseurs-cueilleurs.
Il existe actuellement un vrai engouement autour de Néandertal. Le vrai sujet à mes yeux est la transition entre Néandertal et l'arrivée de l'homme moderne, le fameux sapiens sapiens. Voilà encore un vrai sujet qui pose problème.
Vous avez tout à fait raison. Mais il nous manque les premiers hommes du paléolithique supérieur. Il nous manque les hommes de l'Aurignacien, entre 36 000 et 28 000. Il nous manque 10 000 ans de crâne, parce que nous n'avons aucune sépulture de l'Aurignacien. Les premières que nous avons sont des sépultures gravétiennes. Alors nous avons quelques éléments, comme le crâne, mais tout seul, trouvé dans une grotte de Roumanie, dans une grotte à ours, à Oaz. Nous avons, dans la grotte de Mladec, en Tchéquie, nous avons plusieurs crânes, mais qui ont été détruits pendant la dernière guerre mondiale, avec une datation faite sur quelques fragments qui ont survécu autour de 31 000, nous avons des individus qui ont des caractères mixtes néandertal-sapiens. Donc ces caractères, je dirais, archaïques sur les premiers homo sapiens sont très importants. Et comme nous n'avons pas l'homme de l'Aurignacien, nous ne savons pas quel est véritablement l'aspect du crâne du premier sapiens. Donc voilà une vraie question que nous devons régler.
Un autre sujet très important, et d'ailleurs, votre colloque était centré dessus, votre congrès était centré dessus, la relation homme-climat.
Alors la relation homme-climat, c'est un point fondamental dans la société actuelle. Ce que nous savons de la relation entre l'homme et le climat, c'est que l'homme a une très importante capacité d'adaptation aux variations climatiques. Les variations climatiques, c'est un des fondements de la connaissance de l'homme préhistorique, puisque nous avons une succession de glaciations et d'interglaciaires, avec des variations climatiques que nous connaissons de mieux en mieux, puisque nous parlons toujours maintenant de stades isotopiques pour préciser la chronologie de ces anciens peuplements. L'homme s'est adapté beaucoup plus que l'animal aux variations climatiques. Et donc, c'est peut-être même ces variations climatiques qui ont permis à l'homme de progresser au paléolithique supérieur, de progresser avec l'arrivée de l'Holocène, avec les économies de chasseurs de la forêt, du mésolithique, et de progresser avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de progresser sans doute avec les grandes infrastructures d'irrigation. Au moment où l'Holocène devient un Holocène plus aride, et que le Sahara est abandonné aux agriculteurs pour devenir le domaine des pasteurs nomades, que le Moyen-Orient perd une partie de ses agriculteurs qui viennent coloniser l'Europe, qui devient néolithique grâce à cet assèchement du Moyen-Orient à la fin de l'Holocène humide. Et c'est visiblement ces variations climatiques qui font progresser l'homme. Et les grands travaux d'infrastructure pour créer des réservoirs, pour créer des canaux d'irrigation, pour créer des barrages de retenue d'eau sur le Nil, dont le néolithique est assez tardif, parce que ce sont des gens qui sont venus du Sahara, qui sont venus l'importer, eh bien montre que l'étatisation, elle aussi, est le résultat de ces variations climatiques. C'est pour ça que nous parlons plus de variations climatiques que de changements climatiques, et nous ne parlons jamais de dérèglement climatique, ni d'étuve. Je voudrais juste vous faire une anecdote, c'est que je fouille depuis 25 ans en Ukraine, et quand vous avez une canicule en France, il fait seulement 25 degrés en Ukraine. Et quand vous avez une canicule en Ukraine à 39 degrés, vous avez 25 degrés en France. Donc la canicule de cet été est un phénomène météorologique et non pas un phénomène climatique de longue durée. Donc je crois qu'il faut pas céder au catastrophisme.
François Jinjan, on a parlé de datation, on a parlé d'imagerie, on a parlé de paléogénétique, mais les progrès des préhistoriens, cela se fait avec des tailleurs de cailloux, des casseurs de silex, c'est tout ce travail-là qui est peut-être le plus important.
La culture matérielle, puisque l'archéologie est une archéologie de la culture matérielle. Et l'archéologie de la culture matérielle permet même aux époques historiques de rectifier les textes écrits, qui sont souvent des textes de propagande ou de réécriture du passé. Donc l'archéologue corrige la trop grande confiance que nous pouvons avoir sur les textes de la mythologie ou sur les premiers textes historiques. Alors l'expérimentation dans la taille du silex, les remontages des différents fragments qui proviennent d'un même nucléus, l'étude des vestiges, des négatifs, des enlèvements, tout ça nous permet de mettre en évidence tous les procédés de débitage et tous les procédés de façonnage des outils en silex. Mais ceci est vrai aussi pour la céramique, ceci est vrai aussi pour l'industrie en matière d'ure animale, ceci est vrai aussi pour le travail sur les coquillages, pour fabriquer des objets de parure, et ceci est vrai pour les objets métalliques.
François Jinjan, qu'en est-il de l'art ? Il y a bien des grottes exceptionnelles qui ont été découvertes depuis ces 40 ans. On pense bien sûr à Cussac, Cosquer, Chauvet.
Bien sûr, mais le principal travail que je vois, c'est tout le travail depuis 40 ans de relevés systématiques qui ont été faits et qui ont renouvelé considérablement le travail d'Henri Breuil par la précision des relevés, par l'exhaustivité des relevés, et qui nous donne une base documentaire considérable sur l'ensemble des grottes ornées, naturellement, de tout le domaine franco-cantabrique.
Faisons un peu de prospective. Que doivent trouver les préhistoriens français, aujourd'hui ou demain ?
Eh bien, je pense qu'il faut être un peu directif. Il faut faire une liste des questions scientifiques non résolues, par ordre d'importance, et les financer en priorité. Et les archéologues proposeront des projets pour le faire. Alors je pense qu'il faut trouver un grand site en stratigraphie très ancien, avant 800 000 ans, c'est-à-dire avant l'inversion paléomagnétique de Brune-Matsuyama. Il faut la trouver dans le nord de la France. Il faut travailler sur les peuplements du stade isotopique 5, le grand avant-dernier interglaciaire. Il faut expliquer la variabilité des industries du paléolithique moyen, traiter et résoudre la question de Néandertal et Sapiens, comme vous l'avez dit, trouver une sépulture de l'Aurignacien, étudier le dernier maximum glaciaire, faire un nouveau programme de datation pour la grotte de Lascaux, pour lequel il y a des contestations sur...
Entre le solutréen et le magdalénien.
Voilà, et puis la fonction et la signification de l'art paléolithique, pour lequel... entre les différents modèles ne sont pas encore entièrement satisfaisants.
François Jinjan, merci beaucoup. Donc je rappelle que le congrès de l'UISPP a publié deux volumes, deux très beaux volumes, dont l'un sous votre direction, François Jinjan, La préhistoire de la France, publié chez Hermann. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Najar, à la technique Benjamin Vignal, et avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera au temple mésopotamien d'Ishtar à Marie, en Syrie.